l'histoire des Rasta commence dans les années 20 par la rencontre de deux hommes d'origine jamaïcaine, Marcus Garvey et Leonard Percival Howell. Marcus Garvey, né en 1888 en Jamaïque, fait ses débuts dans l'imprimerie de son parrain et quitte en 1910 la Jamaïque pour travailler comme journaliste. En 1914, il revient sur son île natale pour fonder l'UNIA, l'Universal Negro Improvement Association, le mouvement noir le plus populaire de tous les temps. Il ouvre la voie au Black Power et aux indépendances africaines. Dans les années 20 à Harlem, il prédit qu'un leader charismatique sera proclamé roi d'une grande puissance africaine et deviendra l'incarnation d'un dieu africain. Mais là, ça se passe à Harlem, à Alexander, New York, où Percival Howell, qui lui-même est né en Jamaïque, qui séjourne à New York pour faire des études de médecine. Howell se trouve captivé par les idées de Garvey et va par la suite d'ailleurs s'en inspirer fortement. Donc en 1930, Teferi Mekonnen, le Rastafari, donc Haïlé Sélassié, est couronné roi d'Éthiopie. Donc son titre exact est Haïlé Sélassié Ier, le pouvoir de la Sainte Trinité, 225e empereur de la dynastie de Salomon, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda. De par le monde, beaucoup de Noirs, enfin beaucoup en Jamaïque aussi, voient en ce couronnement l'accomplissement de la prophétie de Marcus Garvey. Donc à partir de là, Leonard Howell va retourner en Jamaïque et commencer à prêcher aux alentours de Kingston et rapportant les prédications de Garvey, le couronnement d'Haïlé Sélassié, et proclamer haut et fort que les Noirs de Jamaïque doivent désormais considérer comme leur roi non plus George V, mais bien Rastafari. Donc il se retrouve arrêté pour trouble de l'ordre public et incitation à la rébellion. L'esclavage étant aboli depuis un petit moment maintenant, les gens veulent se libérer un petit peu du joug britannique et du coup il se retrouve en prison donc pour inciter un petit peu trop fortement le peuple à reprendre ses droits, son identité. Je peux enchaîner avec son emprisonnement. En fait, on trouve des tracts qui ont été imprimés du gang des Rastafari, vraiment les prémices du mouvement, inspiré fortement des discours de Marcus Garvey, quoi. Donc, il y a deux points forts. Disons qu'il y a un point qui dit « Honte à la race qui abandonne sa doctrine pour celle d'une autre, elle deviendra l'esclave de cette autre race. » Et il y a un autre point qui dit « Honte à la race qui ne cherche pas ses propres fondations. » Une ressemblance assez frappante avec le discours de Marcus Garvey qui dit qu'un peuple sans la connaissance de son passé est comme un arbre sans racines. Donc ça, c'est directement, voilà, sorti de la bouche de Marcus Garvey, d'accord, traduit par Leonard Howell pour le peuple jamaïcain. À son procès, il va lui-même assurer sa défense. Alors, en forme de serment, son discours sera un petit peu l'acte de naissance de la doctrine Rasta, quoi. Un véritable programme politique sous des airs de charabia prophétique.
Okay.
Il va mélanger un petit peu le Rastafari, le Messie noir revenu sur Terre pour défendre la cause du peuple noir, la Terre promise en Abyssinie, le Mont Zion, Babylone, le monde corrompu, tout ça, ce qui ne plaît pas beaucoup au pouvoir en place, qui est plutôt un peu anglais. Donc, il écope encore un de 2 ans de prison. C'est là qu'une fois incarcéré, il apprend, Leonard Howell donc apprend en prison en décembre 34, que Mussolini est en train d'envahir l'Abyssinie. Ouais. Donc c'est en ce moment-là que les Noirs du Honduras, de Jamaïque et des îles de la Caraïbe veulent rejoindre les troupes éthiopiennes afin de défendre la mère patrie. C'est alors qu'un article sur les Naya Binki paru en décembre dans le Jamaica Times va mettre le feu aux poudres. C'est en fait un article de propagande anti-éthiopienne écrit en 1934 pour un journal de Vienne par un journaliste italien, Federico Filos. Il prétend qu'une société secrète noire, les Naya Binki, aurait rassemblé une armée de 20 millions d'hommes sous le commandement d'Haïlé Sélassié pour détruire les Blancs. Qu'à l'origine, les Naya Binki sont une société secrète féminine basée au Rwanda-Urundi, qui était en fait un mouvement de rébellion contre le colonialisme. Donc enfin, ces femmes-là étaient assez violentes et exerçaient la terreur envers les colons. Elle a été rapidement interdite, cette société-là, en 1928, et elle ne ressurgira donc qu'au moment de l'invasion de l'Éthiopie. Donc, moins de 2 ans après l'émergence des premiers Rasta, disons, se forme sa première branche dissidente, les Naya Binki. Mais le texte, entre guillemets, fondateur de cette branche du mouvement est un texte de propagande raciste, écrit par un blanc et conçu pour exacerber la paranoïa des blancs. Donc c'est un point assez étonnant de l'histoire qui existe encore d'ailleurs. Hein. Les Naya Binki sont devenus un mouvement rasta assez extrémiste, très engagé contre le colonialisme et les blancs en général. Et ça vient de vraiment tout à fait ailleurs. Enfin, ça a été
récupéré,
propagande. Et voilà, donc ça a été une espèce de gros mensonge historique.
Quoi. Naya Binki, tu dis.
Naya Binki. D'ailleurs, j'ai un petit passage sur ça que j'avais laissé de côté, mais en réhabilitant l'image noire, Marcus Garvey n'avait fait que rendre à des hommes la fierté de leur identité. Les propos de Philos sont tout autres, en fait. Lui, pour que l'Europe accepte de laisser l'Italie annexer l'Éthiopie, il invente un complot mondial de toutes les races de couleurs et leur prête des sentiments de haine qui n'ont jamais été ceux d'Haïlé Sélassié. Donc là où Garvey et Howell parlaient d'amour, ils parlent de haine. Là où ils parlaient de renaître les Nayabingi, selon Philos, parle de tuer. Cette haine des Blancs propre aux Nayabingi est elle-même le produit de l'imaginaire blanc. N'est-il pas normal que les Noirs nous haïssent, compte tenu de ce qu'ils ont subi des mains de notre race? Pour enchaîner avec Leonard Howell, une fois sorti de prison, il va se rapprocher en 1936 donc des communautés indiennes qui sont présentes sur l'île depuis 1845. Il prendra le pseudonyme de Gangung Guru Maharaj, diminutif de Gong, jusque dans les années 60. À ce moment-là, donc, Leonard Howell rejoint un petit peu les communautés indiennes présentes de l'île, sur l'île. Il est fasciné par la sagesse hindoue qui va lui permettre de structurer toute la vision rasta, en fait. C'est un système philosophique qui résout le dualisme occidental, dieu-diable, bien-mal, noir-blanc, corps-esprit. Du coup, la culture rasta sera fortement empreinte d'influences indiennes et, effectivement, les dreadlocks et l'usage de l'herbe sacrée découleront un petit peu de ça. Il faut savoir aussi que les sadhus, qui sont, je crois, les plus importants des moyens hindous, portent même les dreadlocks. Il y a de fortes chances que les dreadlocks qu'on connaît bien, des rastas, des jamaïcains, viennent aussi de là. Voilà, donc à cette période, Leonard Howell acquiert une propriété de 150 hectares sur les collines qui surplombent Kingston, le pinacle. Et c'est là qu'il va inviter un petit peu tous les démunis, les oubliés du système à les rejoindre et fonder aussi, alors, d'une part, la plus grande communauté rasta de l'île et d'autre part, la plus grande plantation de marijuana. Première communauté un petit peu rasta installée sur les hauteurs de Kingston. Donc jusque dans les années 50, il se retrouve là avec quelques milliers de personnes qui affluent en fait de plus en plus, tous les déshérités finalement qui cherchent aussi un prophète ou quelqu'un. Ouais. Donc lui va les prendre un petit peu sous son aile. Et puis à grand renfort de marijuana et d'édité un petit peu rasta, enfin il commence à devenir un peu paradisiaque. Et il va se retrouver un petit peu coupé de la réalité en fait. Il va y avoir d'une part le pinacle et de l'autre le monde extérieur, comme un petit peu Zion et Babylone. Et alors donc voilà, jusqu'en 54 en fait, tout se passe comme ça un petit peu sur un nuage, disons, ouais. ce pinacle. La philosophie rasta devient de plus en plus concrète, jusqu'à ce qu'un raid des autorités jamaïcaines en fait renvoie Howell en prison pour pratique illégale de la médecine. En effet, il a accueilli un grand nombre de personnes défavorisées, souffrant de maux divers. Le plus grand nombre est quand même touché par la malnutrition. Donc c'est aussi, le pinacle est un endroit où on cultive pas que de la marijuana, mais aussi de quoi se nourrir et vivre ensemble de façon assez simple, quoi. Il a suivi des études de médecine qu'il a pas appris, une formation, voilà, il connaissait pas. Donc là, on va l'accuser de ça, il faut bien trouver un prétexte pour mettre ce trouble fait, encore une fois, en prison. Donc là, le prétexte, c'est pratique illégale de la médecine. Et donc on saisit 8 tonnes de ganja, 9000 plants sont brûlés, la police met la main sur des milliers de livres sterling et quelques tonnes de nourriture qui sont pour la plupart produites sur place. Ouais. Donc, si ce n'est la marijuana qui est en train de devenir illégale, qui n'était pas jusqu'alors, car il n'y a pas grand crime en fait. C'est juste que ça effraie un petit peu les autorités en place. Il y a eu plusieurs raids d'ailleurs qui ont, jusqu'à ce que ça soit complètement rasé, par les autorités, parce que ça, c'était difficile à accepter, voilà, pour la couronne britannique.
1954, hein, le raid.
Je crois qu'il me semble qu'il y en avait un avant. Il y a le raid de 54, et après il va y avoir la fin du pinacle en 58. Et le pinacle est mis à sac par les autorités. À cette époque-là, les Rastas se retrouvent du coup en communauté dans les ghettos à l'ouest de Kingston, puis ça va se développer à Bakowal, qui veut dire contre le mur, en fait, au pied du mur, qui est un des gros ghettos, qui est un ancien village indien, une bidonville indienne, subsiste une forte influence indienne. Où d'ailleurs les Rastas se retrouvent autour du chalice, la pipe rituelle d'herbe sacrée. Mm-hmm. On se retrouve pour parler d'amour, d'entraide, d'autosuffisance, de non-violence et de dignité. Quoi. Malgré qu'on habite dans des cabanes en carton, en bois, en tôle, on essaie de garder une petite fierté de son identité. Tous ces Rastas se retrouvent un petit peu entassés dans les ghettos. Et assez rapidement, ils se disent que ça ressemble bien plus à l'enfer que l'illusion de paradis créée par Howell au pinacle. Quoi. Donc la chute de ce dernier donne raison à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution sur place. Quoi. Donc là commence à germer une idée qui existe depuis déjà longtemps, c'est le retour en Afrique, quoi, la repatriation, comme ils disent à l'époque, ce qu'on entend dans tous les textes de reggae, de Rasta, où ils se disent, voilà, maintenant que l'esclavage est terminé, ils se retrouvent dans un système qui leur correspond pas trop, et peut-être que la seule solution, finalement, c'est de revenir sur la terre des origines. À la fin du Pinacle, donc le règne de Howell est en déclin, enfin il se termine quasiment. Et on lui reproche de s'être pris pour Dieu. Peut-être comme Alpha Blondy plus tard, a-t-il vu que le fauteuil de Dieu était vide et il s'est simplement assis dedans.
Eh oui, bon.
Du coup, voilà, il voulait lui une vie socialiste et ses fidèles cherchaient un messie. Il a transformé la vie des gens comme seul Dieu pouvait le faire finalement. Il est venu en aide aux femmes abandonnées, aux ouvriers sans travail, aux paysans sans terre. Pendant 18 ans, il a garanti leur dignité. C'est assez long pour élever une génération d'hommes libres. Et c'est cette génération qui va prendre la relève. C'est un petit peu la génération du réveil. Nous sommes au milieu des années 50, donc la culture Rasta devient urbaine, elle rassemble autour d'elle de plus en plus la jeunesse jamaïcaine, et va tout à coup déborder les milieux Rasta avec l'arrivée du ska. Donc le ska et ensuite le reggae vont naître d'un mélange d'influences qui sont très africaines. Tout d'abord les chants religieux traditionnels, que tout le monde connaît en Jamaïque, ils vont simplement être détournés au profit d'Haïlé Sélassié. On va y ajouter des tambours africains, alors Kumina et le bourou qui donnera naissance ensuite aux percussions Naya Bingi, et à la base de la rythmique reggae en fait. On a aussi l'influence des descendants d'esclaves d'Afrique de l'Est, qui sont des chants funèbres à peine remaniés, et dans les églises de tôle des ghettos retentissent les rythmes vaudous. Donc toutes ces influences-là vont être un petit peu brassées pour installer les bases du ska et d'art du reggae. Voilà, donc il y a une grosse tradition des tambours bourrous, donc qui consiste à la base en un rituel de fin d'année où des groupes de percussionnistes vont de cours en distribuant critiques et colibés. Cette tradition-là va devenir très prisée des rastas. Ils vont s'en donner à cœur joie du coup sur le dos du système colonial. Cette pratique-là, ça devient une sorte de défouloir. Alors un homme... Kanto aussi, à ce moment-là, va relier les communautés de Bourroumen, de Jamaïque et les Rasta en créant, vers la fin des années 50, le centre culturel, la Mystic Revelation of Rastafari, qui est dédié avant tout aux percussions bourrou. Donc il va l'enseigner en masse à tous ceux qui viendront se présenter à la Mystic Revelation of Rastafari. Et en parallèle, il y a une école, l'Alpha School, qui est créée. Alors c'est une institution catholique à la base qui prend en charge les enfants des rues. Et afin de leur donner un métier, de les former un petit peu. Et au sein de cette école, une fanfare est créée. Et alors de tous ces orphelins, en pleine émergence des percussions Rastafari, mouvance un petit peu, va sortir en fait de grands noms de la musique moderne. Il y a par exemple Leslie Thompson, qui deviendra le premier chef d'orchestre noir du London Symphonic Orchestra, et aussi le fameux Johnny Dizimour, qui sera le trompettiste et l'un des membres fondateurs des Scatalites en 1963. Donc il y en a beaucoup d'autres.
Ils sont très importants.
Parmi les plus connus, disons.
D'accord.
Et alors ensuite, il va se passer une rencontre entre Kuntosi et Margarita Mahfoud. Alors elle est d'origine syrienne, en Jamaïque, depuis toute petite. Elle travaille en tant que danseuse du ventre dans les cabarets et les théâtres de l'île. Elle est très réputée pour ça. L'association avec Kuntosi va un peu propulser celui-ci. Elle va proposer à un moment donné, dans un de ses spectacles programmés dans un grand cabaret de Kingston, elle va lui proposer de remplacer la section des percussionnistes par Kuntosi et ses musiciens. Oh. Donc le gars n'est pas du tout d'accord au début. Il ne veut pas de barbu rasta dans son établissement. C'est un petit peu contre l'establishment. Et la bonne société coloniale de l'époque, elle va insister, elle menace d'annuler simplement le spectacle s'il n'est pas d'accord. Quoi. Donc étant donné qu'elle attire quand même beaucoup de monde aussi et que les salles se remplissent beaucoup grâce à elle, ben, ils finissent par trouver un arrangement. Il veut bien inviter ces gens-là, mais il propose de les installer au fond de la scène et de pas beaucoup éclairer, histoire qu'on voit surtout la danseuse et la section cuivre en fait, qui accompagne aussi, mais pas trop les percussionnistes avec leurs grosses barbes et leurs gros cheveux, les gens ne sont pas encore tout à fait prêts. Quoi. Et finalement, le spectacle est un triomphe. Donc la salle demande à voir les musiciens, et lorsqu'on éclaire la scène entière, ben, les avis sont partagés. Ça. Mais bon, il y en a quand même beaucoup pour féliciter, et à l'issue de ce spectacle, Kuntosi va vraiment installer son groupe avec la Mystic Revelation comme un groupe officiel, va faire des concerts, va avoir des accès qui vont s'ouvrir.
Belle histoire en tout cas.